Bonjour à tous. Alors, je suis un peu intimidée d'intervenir dans cette institution prestigieuse et je remercie Didier Roux de la confiance qu'il me fait en m'ayant proposé d'intervenir et de clôturer. Et j'espère juste qu'il ne va pas regretter au bout d'une heure de m'avoir fait intervenir. Donc, moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu sur des choses qui vous ont été présentées par Didier au cours des différentes conférences, et notamment de la conférence inaugurale, mais de petit à petit centrer, de vous amener sur un point particulier qui est la rationalité créative. Alors, je vais quand même essayer de revenir sur quelques idées, je dirais, ou quelques mythes qui entourent finalement l'innovation et dire pourquoi c'est important de parler d'innovation et de faire des recherches sur l'innovation. Alors, première chose, souvent on entend parler, enfin, il y a un petit peu un discours qui tend à dire qu'il y a une injonction politique à innover et que c'est finalement quelque chose à la mode de ces dernières années, de nos différents gouvernements. On entend aussi dire que l'innovation, finalement, c'est un prétexte, un avatar du capitalisme. Ça, c'est une représentation complètement erronée, parce que quand on fait un peu d'histoire de la pensée et d'histoire des techniques, on s'aperçoit que l'innovation, c'est constitutif, c'est quelque chose qui est vraiment constitutif de notre humanité. Alors, je vous ai montré sur ce slide quelques exemples, puis j'aurais pu remonter très loin, mais pour vous montrer que de tout temps, et c'est ce qui caractérise l'homo sapiens des espèces animales, on a toujours innové. On a toujours innové, alors avec des répercussions qu'on peut discuter ensuite sur l'empreinte qu'on a sur le monde dans lequel on vit, sur les effets que ça peut avoir sur la disparition de certaines espèces animales, etc. Donc effectivement, quelque chose qui est pérenne. Et c'est aussi ce qui nous distingue des espèces animales, parce que certes, certaines espèces animales vont créer des dispositifs qui leur permettent de se nourrir ou de s'abriter. Par contre, nous, c'est vraiment une tendance permanente qu'au fil des siècles, on va retrouver, avec des objectifs qui vont évoluer parce que notre société va évoluer. Alors, ce qui est important de voir, c'est que parce que nous évoluons en même temps que nos innovations, ces innovations, elles participent de la conception du monde dans lequel on vit. Et partant de là, on comprend bien que parce que les innovations que successivement on a développées construisent le monde dans lequel on vit, c'est quand même important de penser justement et de comprendre le mode d'existence de ces innovations. Donc ça, c'est l'intérêt, je dirais, qui peut être premier pour le chercheur, mais c'est aussi l'intérêt qui est premier aussi pour notre communauté, parce qu'il y a un vrai sens politique dans une réflexion sur l'innovation. Alors, politique au sens de nos gouvernements, mais politique au sens, si on comprend le mode d'existence des innovations, si on comprend le sens des innovations, à travers ce sens, on comprend un petit peu, on se comprend nous-mêmes. Donc il y a un double sens politique là-dedans. C'est un enjeu industriel, on est de plus en plus dans un contexte d'hypercompétition. L'innovation apparaît comme un vecteur, effectivement, on va dire, pour soutenir les industries. C'est un vecteur très important, justement, au niveau social aussi, parce que ça modifie beaucoup de choses. Et puis, quelque chose sur lequel je reviendrai à la fin de cette présentation, c'est un véritable enjeu de formation. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous montrer à partir des différents modèles d'innovation pour voir un petit peu comment chacun des modèles qui ont pu être... Alors là, je vais essentiellement me centrer sur les modèles qui ont été réalisés et qui ont scandé, je dirais, un petit peu l'histoire de l'analyse économique. Essayer de vous montrer quelles peuvent être les implications sur le management de l'innovation et puis quelles peuvent être les implications que ça peut avoir sur notre façon de penser la formation à l'innovation. Donc, je vais revenir quand même rapidement, puisque ça avait déjà été présenté dans la conférence inaugurale de Didier Roux et puis qu'il l'a un petit peu représenté aujourd'hui, les trois modèles d'innovation que j'avais repérés dans mes tout premiers travaux de recherche qui étaient ma thèse, mais qui, derrière, permettent de comprendre un petit peu comment, justement, on pilote et on envisage le management de l'innovation. Et je me centrerai essentiellement sur les implications que ça a en France, mais on verra par moment que ce n'est pas uniquement une vision franco-française, que c'est véritablement une vision très occidentale. Alors, bien comprendre le premier modèle qui a été présenté et illustré tout à l'heure dans la conférence de Didier Roux, c'est le premier modèle de Schumpeter. Donc le premier modèle de Schumpeter, si on veut bien le comprendre, il faut aussi comprendre qu'est-ce qu'il vise, pourquoi il a été créé. Et ce premier modèle d'innovation de Schumpeter, en fait, vise à être un moyen qui permet de comprendre, de rendre compte de l'évolution économique. Sa question fondamentale de départ à Schumpeter, c'est « je veux comprendre pourquoi il y a des cycles économiques, pourquoi on a ces phases d'expansion, de récession ». Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Schumpeter est complètement en opposition à ce qu'on appelle la théorie classique, marginaliste en économie, qui pense qu'il y a un équilibre stationnaire, et pour lui, c'est une utopie. Le fonctionnement de l'économie ne fonctionne pas ainsi, et donc du coup, il cherche à rendre compte de ces évolutions. Alors comment il en rend compte ? Ben, très simplement, pour lui, il trouve que ce qui va expliquer justement ces phases d'expansion, puis ensuite de récession, ben, c'est qu'à un moment donné, il y a un objet qui est l'innovation, et donc il en parlera en termes de grappe d'innovation, qui va finalement lancer la machine. Donc pour lui, le vecteur de l'évolution économique, c'est l'innovation, d'où l'intérêt qu'il va lui accorder ensuite dans ses analyses. Ça veut dire que derrière l'objet de l'évolution, c'est effectivement l'innovation. Il faut un vecteur qui va être un moyen, qui va être le crédit, qui permet effectivement d'apporter le soutien financier nécessaire au déploiement de ces innovations. Et puis, troisième élément, et on y reviendra notamment, j'y reviendrai à la fin de ma présentation, il y a un acteur clé que Schumpeter va appeler entrepreneur et que aujourd'hui on retrouve plutôt sous le concept d'innovateur. Alors, je reviendrai sur entrepreneur chez Schumpeter et entrepreneur aujourd'hui, on va voir qu'il y a une espèce de confusion qui est un peu maladroite et qui finalement peut être un peu dangereuse quand on se met dans une logique de politique de formation à l'innovation. Ce qui est important de retenir aussi effectivement dans ce modèle de Schumpeter, c'est qu'il fait une démarcation très stricte, très nette entre ce qui est du domaine économique, la partie droite qui est l'innovation, ce qui est du domaine de la technique qui est en amont de l'entreprise. L'entreprise, c'est la boîte noire. On ne sait pas comment ça se passe. On sait qu'en amont, effectivement, il y a ce stock d'inventions. L'entrepreneur va venir chercher une combinaison intéressante et puis ça va lui permettre d'amener une innovation sur le marché. Alors, on voit tout de suite que si on doit piloter l'innovation avec un tel modèle, on ne fait pas grand-chose. On ne fait pas grand-chose parce qu'on ne sait pas comment sont produites les inventions, puisque c'est en dehors de la sphère économique. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la boîte noire qui est l'entreprise. Donc, en fait, c'est un modèle qui est un petit peu court. Alors c'est un modèle qui est un petit peu court et Schumpeter va s'en rendre compte très rapidement et donc proposer ce deuxième modèle qui est le modèle dominant en France aujourd'hui encore. Alors ce modèle, il va poser tout de suite une relation de causalité entre la recherche et l'innovation. Pour le dire autrement, sans recherche, point de salut pour l'innovation. Et pour le dire autrement, si vous voulez de l'innovation et de la rentabilité économique, investissez en recherche parce que automatiquement vous aurez une rentabilité en termes de compétition, de part de marché, de chiffre d'affaires, etc. Donc effectivement, ce modèle, il définit cette relation de causalité et donc il pense l'amélioration du processus d'innovation à travers du prisme du rendement. Donc là, on voit que par rapport au premier modèle, c'est un modèle qui est plus riche parce qu'au moins on peut piloter l'innovation. Il nous donne une façon de piloter. Deuxième point important, c'est qu'on voit bien que dans le premier modèle, l'innovation, c'est un résultat. On ne peut pas l'expliquer. Là, il évolue, c'est-à-dire que l'innovation, c'est devenu un processus. On sait que pour aller vers l'innovation, il va falloir faire de la recherche, du développement, passer en fabrication, production, et donc on arrivera avec la mise sur le marché. Donc on a vraiment quelque chose de beaucoup plus fin, et on va dire quelque chose qui nous permet d'agir, un levier d'action dans une perspective de politique d'innovation. Alors, effectivement, ce deuxième modèle, je vous ai dit, il est très prégnant aujourd'hui, mais dès le début, il a conduit à mettre en œuvre, on va dire, les premières politiques de la recherche. Aujourd'hui, on parle de politique de la recherche et de l'innovation. Initialement, ce modèle, ce sont des politiques de la recherche. Et vous voyez, dans les années 60, on va booster la recherche, on va multiplier par 3 les dépenses de recherche. Si vous regardez les tableaux de bord sur les évolutions des dépenses au fil des années de recherche et développement, là aussi on voit qu'on est fortement imprégné de ce modèle parce qu'on a cette tendance systématique. Vous voyez, c'est exprimé en millions d'euros. 1978, on est à 5 897 millions d'euros. On arrive à 46 422 millions d'euros. Donc on voit bien qu'effectivement, on a bien compris que si on veut faire produire des innovations, il va falloir investir plus en recherche et développement. Donc on a un vrai modèle qui devient un vrai instrument de politique économique, que ce soit au niveau national ou au niveau des entreprises. Alors, Pour comprendre ce deuxième modèle de Schumpeter, il faut revenir aussi sur qu'est-ce qui se passe et pourquoi, à un moment donné, il peut concevoir ce modèle. Là aussi, il y a toujours une histoire. Il y a toujours une histoire et les éléments qui vont contribuer à ça, c'est que premièrement, Schumpeter s'aperçoit qu'il y a une très forte augmentation des dépenses de recherche et développement au moment où il avait fait son premier modèle. Et il se dit bien, les entreprises sont rationnelles. Si effectivement l'invention était menée en dehors de l'entreprise à titre gratuit, pourquoi les entreprises investiraient-elles en dépenses dans la recherche et développement ? Deuxième élément, c'est à ce moment-là où il s'aperçoit qu'il y a de grandes entreprises qui se créent et qui se créent parce qu'il y a des forces de frappe en recherche qui permettent des innovations. Et il y a des succès, on va dire, qui sont très, très médiatisés avec la découverte du nylon. Vous voyez, le nylon en 1935, 1938, le brevet est déposé, 1940, les premiers bas, avec une explosion des ventes. Donc il y a plusieurs éléments qui font qu'on se dit, effectivement, les entreprises, il y a des entreprises et des exemples concrets d'entreprises qui misent sur des dépenses de recherche et développement et qui ont des véritables success stories, je dirais d'une certaine façon, qui fonctionnent très bien. Et puis, on est aussi à un moment où on a une idéologie scientiste, donc un contexte de réflexion qui consiste à dire qu'effectivement, plus on va investir dans la recherche, plus on va pouvoir apporter finalement des solutions à tous les maux de la société. Et là, je vous ai mis la citation de Félix Le Dantec qui nous dit « Je crois à l'avenir de la science, je crois que la science et la science seule résoudra toutes les questions qui ont un sens. » Donc, le modèle Schumpeter II, il est créé dans ce contexte, il émerge dans ce contexte d'observation d'évolution des dépenses, de sociétés qui réussissent bien à partir de l'application des sciences et donc effectivement de cette idéologie. Alors, maintenant, si on regarde effectivement comment se décline et comment on va se positionner, on peut faire des cartographies à différentes échelles nationales. Donc on peut faire une cartographie de toutes les régions françaises pour voir, entre guillemets, d'une certaine façon, qui sont les bons élèves et qui sont les élèves à la traîne. Vous allez le faire au niveau européen, vous pouvez le faire au niveau international. Donc quand on regarde effectivement les chiffres, si on se focalise sur l'espace européen, on s'aperçoit qu'en France, on a bien compris le message du modèle de Schumpeter, puisqu'effectivement, on voit qu'on investit beaucoup, avec la part d'investissement au niveau européen en recherche et développement, on est à deuxième position, on a une très bonne force de frappe en publication et on dépose beaucoup de brevets. Donc ça veut dire qu'on a bien intégré ce modèle. Et puis, on va se dire que quand on regarde potentiellement ce schéma, il y a des pays, excusez-moi l'expression, qui sont un peu à l'ouest. Par exemple, si on prend le Portugal, et j'espère qu'il n'y a personne qui vient du Portugal et que je vais froisser ici, mais c'est effectivement, quand on regarde, on se rend compte qu'il y a très peu d'investissements en recherche et développement, qu'il n'y a pas beaucoup de publications et qu'il n'y a pas beaucoup de demandes de brevets. Donc, avec des cartographies et ces indicateurs, on va pouvoir stigmatiser les bons élèves. Et là, on va se dire, on est content d'être français. On est plutôt brillant et performant sur nos trois indicateurs, qui sont nos indicateurs d'innovation. Puis, il y a d'autres pays qui ne réussissent pas très bien, qu'il faudrait, eux, peut-être, sans doute, qu'ils investissent un petit peu plus. Alors, vous avez compris l'ironie, effectivement, ou le ton ironique de mon slide précédent, parce que quand on voit les résultats, je dirais, ou l'investissement qu'on fait en recherche et développement, je dirais que moi, naïvement, je m'attendrais à voir que la France, quand on fait le palmarès des pays les plus innovants, soit en tête. On est entre deuxième et troisième position sur tous les indicateurs, soi-disant, d'innovation. Et puis, quand on regarde effectivement notre capacité à innover, vous voyez, la moyenne, c'est la petite barre bleue. Et puis, la France, on est juste avant la petite barre bleue et je suis enseignante, quand un élève il est à la moyenne, il est moyen, à pour un chat, un chat. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui est décevant parce qu'on s'aperçoit qu'en France, on a augmenté considérablement l'investissement en recherche et développement. Il faut savoir qu'en 15 ans, on a vraiment multiplié les dépenses en recherche et développement au niveau national, qui atteignent aujourd'hui du coup 10 milliards. Le nombre, je dirais, d'incitations, de dispositifs en faveur de l'innovation n'a cessé d'augmenter. Sur les 15 dernières années aussi. Et paradoxalement, quand on regarde nos chiffres de l'innovation, on s'aperçoit qu'on ne réussit pas bien. Donc là, effectivement, c'est un petit peu frustrant parce qu'on a l'impression, finalement, de ne pas avoir les résultats à la hauteur des moyens qu'on a engagés. Alors, ce constat, il a été dressé dans plusieurs rapports qui ont été remis au gouvernement. Le rapport Bella Tandouin, qui a été publié en 2013, qui nous dit de nombreuses initiatives souvent pertinentes ont été prises pour favoriser le développement de l'innovation. Il en a résulté une accumulation et une diversité de dispositifs, de structures, tant au niveau national que régional ou local, peu lisibles, dont l'efficacité globale économique, industrielle et sociale en termes de création d'emplois reste à démontrer. Donc là, c'est vraiment embarrassant parce qu'on se dit tout ce qu'on a misé pour effectivement pas arriver au résultat escompté. En 2016, plus près de nous, le rapport Pisani-Ferry, il arrive effectivement au même résultat, avec même quelque chose qui peut être problématique, puisqu'il nous dit que le rythme de renouvellement des dispositifs pourrait même favoriser les chasseurs de primes, c'est-à-dire inciter des entreprises à non plus se mettre dans une logique d'innovation, mais de capter justement et de recherche à comment capter toutes ces primes, toutes ces subventions. Et on comprend bien que ce n'est pas de la sorte qu'on va produire plus d'innovation. Alors, effectivement, le rapport Bella Tambourin fait état de ce décalage, un décalage entre des indicateurs de moyens et des indicateurs de résultats. Et il nous présente dans son rapport ce petit tableau qui est assez intéressant parce que, en fait, ils ont essayé de classer les dispositifs d'aide à l'innovation par catégorie. Et puis, ils ont regardé dans le temps un petit peu comment ça évoluait. Et vous voyez que le premier poste, justement, des dispositifs en faveur de l'innovation, ce sont d'augmenter, trouver des dispositifs qui permettent d'augmenter les capacités privées en recherche et développement. Et c'est effectivement quelque chose qui va en s'accroissant sur la période 2000-2014. Et puis, d'autres choses, promouvoir l'entrepreneuriat innovant, effectivement, on en parle beaucoup, mais on voit que c'est quelque chose qui reste finalement assez minime. Et puis, on a même des choses qui vont en diminuant, c'est soutenir le développement des entreprises innovantes. Là, on voit que c'est quelque chose en régression. Et donc, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un problème parce que... on s'aperçoit qu'on a un problème. On s'aperçoit qu'on est véritablement héritier du modèle Schumpeter II, parce que la majorité des dispositions qu'on prend au niveau national vont dans le sens de ce modèle en se disant il faut investir plus, donc il faut soutenir la recherche, il faut donner des incitations fiscales pour faire plus de recherche et donc promouvoir l'innovation. Et donc là, effectivement, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément ce qui marche. Alors, ce n'est pas forcément ce qui marche, précisément, parce qu'on a trop focalisé et on a apporté trop d'importance à la recherche et développement. Donc, il y a plusieurs rapports qui font état de ce point. Ron Boschma, dans un rapport qu'il a publié en 2008, en fait, nous explique que quand on regarde un petit peu la situation européenne, et donc là, c'est une situation qui est pas uniquement spécifique à la France, on s'aperçoit qu'on fait l'hypothèse, justement, avec ce modèle en filigrane de Schumpeter II, que plus on va investir en recherche, plus on va produire de l'innovation. Sauf que le constat qu'il fait, c'est que la plupart des connaissances nouvelles créées ne sont pas exploitées économiquement en Europe, mais le sont dans des pays tels que les États-Unis. Cela signifie que la politique de recherche et développement européenne nourrit l'exploitation de connaissances ailleurs. Alors là, vous voyez bien que c'est quand même dramatique, parce qu'on est en train de se dire que finalement, on sait plus faire des inventions avec de l'argent que de l'innovation, et on est en train de financer les innovations de pays concurrents, ce qui est quand même aussi un gros souci. Alors, on retrouve exactement les mêmes propos dans le rapport Bouze et compagnie qui redit effectivement qu'il n'y a pas de relation statistique significative qui démontre cette relation entre le montant qui est investi en recherche et développement et la capacité ou les performances en matière d'innovation. Et puis effectivement, Bella Tambourin qui nous dit finalement oui, la recherche est importante, mais il y a quand même tout un autre ensemble d'activités qui vont permettre de passer justement d'une idée, d'un produit ou de découverte à une innovation. Il y a tout un ensemble d'activités et si on se focalise uniquement sur un moment du cycle, on va peut-être louper des choses. Alors, c'est un peu ce constat, moi, je ne sais pas comment il faut le dire, j'irais m'exaspère un petit peu, dans la mesure où ce constat, je faisais le même en 99. En 99, il y avait plein de rapports qui déjà nous disaient exactement la même chose. On avait eu le rapport Made in America, qui effectivement avait démontré, donc de Solo, dont Solo était un des auteurs, qui démontrait effectivement qu'il n'y avait pas cette corrélation. On a Amable et Boyer qui effectivement nous montrait que la compétitivité des entreprises et des nations ne saurait dépendre exclusivement et mécaniquement des investissements réalisés en recherche et développement. Et pourtant, on continue à avoir comme vecteur principal de l'innovation Il faut investir plus en recherche et développement. Il faut peut-être plus protéger ou affiner, enfin, pas affiner, mais rendre les processus de dépôt des brevets plus simples, parce que le problème vient peut-être de là. C'est-à-dire qu'on reste centré sur quelques indicateurs et on oublie d'en avoir une vision large. Alors, c'est d'autant plus frustrant que depuis 1986, Klein et Rosenberg nous ont proposé ce modèle. Alors on voit que c'est un modèle qui peut un peu faire peur parce qu'il y a des flèches dans tous les sens, mais ce modèle, il a été fondé et construit sur des études de cas. L'idée de ces auteurs, c'est qu'ils ont regardé des exemples d'innovation et ils ont fait la généalogie en fait, de ces innovations pour comprendre comment ça marche. Effectivement, on voit que c'est un petit peu plus compliqué que le modèle de Schumpeter 2. Et ce qui est aussi intéressant dans ce modèle, c'est que leurs études de cas qu'ils ont menées leur permettent de constater et de conclure que le processus central d'innovation, ce n'est pas la recherche, et le point de départ, ce n'est pas la recherche, mais c'est la conception. Vous ne trouverez pas d'innovations qui sont nées sans qu'il y ait eu à un moment donné une activité de conception. Alors que vous pourrez trouver effectivement des innovations qui n'ont pas une origine, pour origine, de la recherche. Ce qui explique effectivement, vous voyez bien que la partie centrale du processus, ce sont ces trois boîtes qui sont notées invention-conception, conception détaillée, conception finale. Vous voyez qu'on retrouve pour autant la recherche, c'est-à-dire que le modèle de Klein et Rosenberg et le discours, qu'on ne se méprenne pas sur ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de la recherche. Je suis juste en train de dire que lorsqu'on dit que le point obligatoire de passage et que le point de départ de l'innovation, c'est la recherche, ça, c'est erroné. La recherche, effectivement, on va pouvoir aller puiser dedans à des moments très différents et puis des fois pas. Du coup, c'est pas neutre, ce constat, parce que ça veut dire qu'on comprend bien que pour qu'il y ait de l'innovation, on a aussi besoin d'une certaine forme d'autonomie de la recherche. Parce que la recherche va amener des connaissances qui, à un moment donné, ne seront pas forcément utiles pour délivrer une innovation, mais qui pourront être, à un moment donné, plus tard, en T plus 1, remobilisées, réutilisées pour un autre projet d'innovation. Donc là, c'est aussi intéressant de se dire que ce modèle permet de comprendre que recherche et innovation, je dirais, sont deux processus qui se nourrissent, deux processus qui ouvrent des possibles chacun l'un à l'autre. Et c'est ce que veut dire ce modèle. Ça ne veut absolument pas dire, le modèle de Klein et Rosenberg, qu'il faut arrêter de faire la recherche. Ça ne veut absolument pas dire qu'il faut assujettir la recherche à l'innovation. Non, c'est juste de se dire, la recherche, c'est quelque chose qui est intéressant, pas pour tous les processus d'innovation, mais effectivement qu'on peut utiliser. Et alors là, je dirais que le modèle de Klein et Rosenberg prend d'autant plus son sens quand on n'en restreint plus l'innovation à que de l'innovation technologique. Parce que lorsque vous parlez d'innovation sociale, vous n'avez pas forcément besoin de recherche. Donc on se rend compte qu'effectivement, ce modèle de Klein et Rosenberg, il est plus complexe, mais il permet de voir différemment l'innovation. Alors, quand je dis « il permet de voir différemment l'innovation », ça veut dire qu'il permet de piloter différemment l'innovation aussi, pour la question qui nous intéresse plus particulièrement. Parce qu'à partir du moment où vous dites « le processus central de l'innovation, c'est la conception », ça veut dire que vous allez certes manager, piloter, faire des incitations pour la recherche, mais il va falloir aussi prêter attention à comment on va travailler le processus de conception, comment on va organiser le processus de conception. Et vous avez peut-être entendu parler des démarches de design thinking. Les démarches de design thinking, ce sont des démarches qui sont orientées conception, justement. Et ces démarches, elles consistent à dire qu'effectivement, il va falloir être capable d'observer le monde tel qu'il nous entoure et pas se faire des projections d'usagers. Au contraire, il va falloir les comprendre, il va falloir voir comment ils vivent concrètement. Si on prend ça, déjà, on va voir qu'il y a beaucoup d'idées d'innovation qu'on a voulu amener sur le marché qui fonctionnent techniquement, mais qui sont hors d'usage, tout simplement parce qu'on n'a pas pensé conception, qu'on n'a pas été regarder qui était l'usager, quelle était sa façon de se comporter, quelle était sa façon d'être au quotidien. Donc effectivement, penser l'innovation à partir de la conception, ça ouvre de fait des perspectives nouvelles en termes de management de l'innovation. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, vous nous avez présenté deux modèles de Schumpeter qui finalement ne sont pas très viables, qui ont des effets, on va dire, contestables. Est-ce que le modèle de Klein et Rosenberg, il est effectivement plus robuste? Parce qu'un modèle, il faut aussi le tester. Alors, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés, que ce soit par la Commission européenne ou par des rapports, que ce soit celui de Tether ou celui du Centre de design et innovation il y a quelques années. Et en fait, le point commun de toutes ces études, c'est qu'elles montrent bien que des entreprises ou des pays qui ont cette culture conception, qui vont justement prêter beaucoup plus attention à la conception, ont des capacités à innover un petit peu plus élevées que des pays qui vont être juste centrés sur la recherche. Et elles vont avoir aussi des capacités à apporter des innovations un petit peu plus novatrices. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, quand je vous ai montré nos performances, voilà, nous, en France, on était juste à la moyenne. Et puis, les pays qu'on trouve en tête sont la Finlande, la Suède, etc. Il faut savoir que ce sont des pays qui ont beaucoup plus la tradition de la conception, qui pensent beaucoup plus conception. Et finalement, on se rend compte que ce modèle, il se voit en termes de performance, d'innovation. Enfin, la validité du modèle de Klein-Rosenberg, on la retrouve ici. Alors, partant de là, effectivement, si on accepte de changer, je dirais, notre regard ou notre fusil d'épaule en se disant « bon, je ne néglige pas la recherche, mais j'accepte qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir », ça veut dire qu'on va avoir de nouveaux leviers, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, de pilotage de l'innovation. Et puis, c'est surtout qu'on va se donner la possibilité de penser à quelque chose de particulier qui est la rationalité créative. Pourquoi ? Parce que quand on réfléchit et quand on travaille sur la conception, on va identifier un certain nombre de caractéristiques de la conception et on va forcément tomber très rapidement sur la nature créative de la conception. Donc ça veut dire qu'il va falloir s'interroger sur qu'est-ce que c'est que cette fameuse rationalité créative et d'où vient cette créativité. Alors, pour aborder cette question de la rationalité créative, je vais m'appuyer sur Cédric Villani et notamment les propos qu'il a pu mobiliser, délivrer au cours de conférences. Alors Cédric Villani, certains d'entre vous le connaissent, d'autres peut-être pas. Donc c'est un mathématicien qui a reçu la médaille Field en 2010. Donc la médaille Field, c'est vraiment le prestige de la reconnaissance d'un jeune chercheur, parce qu'il faut avoir moins de 40 ans, pour la qualité de ses travaux et surtout des travaux qui sont à l'interface de plusieurs disciplines. C'est un des éléments. 2010, il obtient donc sa médaille Field, cette récompense, et donc dans la foulée, il va être très médiatisé. Et parce qu'il est très médiatisé, il est très sollicité pour faire des conférences sur l'innovation. En parallèle, il va faire une sorte de biographie, un ouvrage, Théorème du vivant, dans lequel il essaye de retracer le cheminement qui a permis d'arriver à la médaille Field et surtout à la conception de son théorème. Alors là, je vais reprendre les propos de Cédric Villani et les propos qu'il présente dans les conférences souvent un titre qui sont « Les sept ingrédients des idées d'innovation ». Alors vous voyez, déjà, sémantiquement, il ne parle pas d'innovation, mais des idées d'innovation, donc on est bien sur ce volet un petit peu la créativité. Alors, premier élément auquel il fait référence, c'est la nécessité d'avoir de la documentation. Il nous dit qu'il faut nourrir le cerveau pour qu'une idée émerge. Donc là, on retrouve une idée, je dirais, largement admise, c'est pour innover, pour créer quelque chose. On ne part pas de rien, il faut des connaissances. Et donc, son premier ingrédient, c'est mettre l'accent sur le fait qu'il vous faut des connaissances, il va falloir en acquérir. Deuxième ingrédient clé, selon lui, la motivation. On y croit et c'est irrationnel. Alors là aussi, on va retrouver un point qui est largement travaillé, que ce soit dans les travaux sur la psychologie de la créativité ou de l'innovation, mis en avant dans la littérature. On parle de flow psychologie, effectivement. Et derrière, cette idée, c'est le point commun et qu'on va retrouver justement chez les innovateurs, c'est qu'ils sont hyper motivés parce que l'innovation, le processus d'innovation, ce n'est pas un long fleuve tranquille, ça va être des moments de désespoir. Quand on lit son bouquin, on se rend compte que même lui, alors qu'il est super brillant, il y a des moments où il a envie limite de tout jeter. Mais voilà, parce qu'il est motivé, il y retourne et il va finalement arriver à trouver cette solution. Donc la motivation, c'est véritablement un élément clé. Troisième point clé, un environnement propice. Donc, il évoque à la fois dans son bouquin et dans la conférence, notamment son laboratoire. Et ce qu'il apprécie justement dans son laboratoire, c'est le fait qu'ils arrivent à discuter, rencontrer, alors qu'ils ne sont pas forcément spécialistes des mêmes choses, mais qu'à travers ces échanges, ces rencontres, effectivement, il va pouvoir se nourrir, s'enrichir, il va pouvoir faire évoluer, je dirais finalement, sa pensée. Quatrième point qui est étroitement lié au troisième, les échanges. Chacun va apporter sa pierre pour faire une seule démonstration. Donc, effectivement, pour Cédric Villani, le fait de pouvoir rencontrer des gens, alors, à la fois dans son laboratoire, mais je vous le montrerai tout à l'heure à l'occasion des conférences, c'est un moyen, justement, pour lui de faire avancer sa pensée. C'est un moyen pour lui de faire, je dirais, d'une certaine façon, cabosser ses hypothèses, de tester la robustesse de sa pensée. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui est très important. Cinquième ingrédient, les contraintes. Si vous n'êtes pas contraint par les bons facteurs, vous ne serez pas motivé pour avoir des idées nouvelles. Donc pour lui, c'est effectivement quelque chose qui est important. Dans les travaux sur la créativité, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Les périodes de guerre sont des moments qui sont très positifs ou favorables à une forme de créativité et d'innovation. Donc on voit qu'effectivement, il peut y avoir des choses qui peuvent être permissives. Alors, il y a des choses qui peuvent l'être, et puis il y a des contraintes qui sont complètement castratrices et qui vont, au contraire, annihiler toute possibilité d'être créatif. Sixième ingrédient, le travail et l'inspiration. Alors, j'aime beaucoup, en fait, les moments où les citations, effectivement, qu'il fait à propos de ça. Je vous ai mis celle-ci, il y a une voix dans ma tête. Il faut faire passer le second terme de l'autre côté, prendre la transformée de Fourier inversée dans L2, vite, je teste l'idée qui est apparue magiquement, je mets le magiquement en gras. Ce matin, pour combler ce maudit trou, je griffonne, je contemple, un instant de réflexion, ça marche, je crois ça marche, c'est sûr, voilà, il est euphorique. Alors, j'ai mis le petit magiquement et à la fin de la conférence, c'était assez intéressant parce que j'ai bien aimé l'idée du jardinier. Je pense qu'effectivement, là, il s'émancipe de cette vision du jardinier pour aller vers aussi une représentation assez romantique de l'intervention divine. Et d'ailleurs, il y a un moment dans son bouquin, je crois dans certaines de ses conférences, où il parle de... il y a un moment où le dieu des mathématiques lui parle. Donc, effectivement, il faut peut-être effectivement cette inspiration, mais là, peut-être qu'il faut prendre du recul sur ce moment et peut-être plus aller vers la vision d'un jardinier, c'est-à-dire le travail qui est conséquent au quotidien, qui fait qu'à un moment donné, eh bien, vous allez voir comment ça s'emboîte. Et puis, la chance et la persévérance, donc septième ingrédient que Cédric Villani met en évidence. De temps en temps, un coup de chance se produit, il faut le répéter et lui sauter dessus. Si on ne supporte pas de sécher, il ne faut pas faire le job de mathématicien. Donc là, effectivement, l'innovation, la conception, c'est ce que je vous disais il y a un petit instant, c'est quelque chose qui est par moments compliqué. Et plus vous allez aller vers quelque chose de novateur, ben, plus vous allez avancer à l'aveuglette. Et donc, du coup, si effectivement on n'aime pas avancer à l'aveuglette, ben, faut pas se lancer dans ce type d'activité. Alors, le propos de Cédric Villani est super intéressant. Quand on écoute ses conférences, je veux dire, on se dit oui, on est d'accord avec tout. Spontanément, on adhère à tout, même si l'intervention du dieu de la mathématique me laisse peut-être un peu plus songeuse. Mais sinon, effectivement, quand on regarde la littérature, on voit bien, quand on fait l'histoire d'innovation, la généalogie d'innovation, on retrouve ses caractéristiques, on retrouve ses ingrédients. Par contre, il y a quelque chose qui est assez frustrant. Lorsque vous lisez l'ouvrage, et moi j'ai d'abord lu son ouvrage, et puis ensuite j'ai regardé les conférences qu'il a données sur l'innovation, on s'aperçoit qu'il y a en fait un glissement. Un glissement, mais qui est évident si vous lisez l'ouvrage. C'est-à-dire que lorsque vous écoutez ces conférences, vous avez ces sept ingrédients, et les sept ingrédients vous sont apportés les uns après les autres, et de façon assez à plat. Lorsque vous lisez son ouvrage, où là, effectivement, il vous relate au quotidien comment il a fonctionné, où il vous met les échanges qu'il a eus, les mails, etc., on se rend compte qu'en fait, il y a deux facteurs qui sont prépondérants, qui ne sont vraiment pas de même niveau. Les deux facteurs qui sont la motivation. Là, on voit effectivement dans son ouvrage tous les moments de doute, tous les moments où il a envie de tout lâcher. Quand leur article se fait retoquer par Acta Mathematica, il y a un moment donné où effectivement ils sont un peu désespérés. Son doctorant Clément Mouhot, il y a un moment où il a envie d'abandonner aussi. Donc on voit que la motivation, c'est vraiment fort, c'est vraiment important pour mener des projets d'innovation. Et puis le deuxième point, ce sont les échanges de connaissances. Quand vous regardez son ouvrage, vous vous rendez compte que finalement, ce qui lui permet de bâtir son théorème, ce sont ses rencontres, ce sont ses échanges. Alors, j'ai pris et j'ai essayé de retracer avec deux collègues un petit peu les moments clés qu'ils citent, qu'ils font avancer justement. Et là, on se rend compte, alors, Clément Mouhos, c'était son ancien doctorant avec lequel il va beaucoup travailler. Dans son ouvrage, il nous dit clairement, sur le mois de janvier, je crois, il y a pas loin de 100 échanges de mails, justement, où il travaille sur le théorème. Le mois d'après, c'est presque 200. Donc, on voit qu'effectivement, il y a une communication importante pour confronter, pour faire avancer, pour tester. Il y a des rencontres informelles, donc des rencontres informelles qui vont avoir lieu dans son laboratoire à Lyon avec certains auteurs. Il y a des rencontres qui sont beaucoup plus formelles, c'est-à-dire qu'il va très souvent, et Clément Mouhos de son côté, ils vont présenter les avancées de leur théorème, ils vont confronter ça avec des fois des remarques très sévères. Il en fait état dans son ouvrage. D'ailleurs, je trouve qu'il est très humble de ce point de vue en disant, voilà, tout grand mathématicien qu'il est avec sa médaille Phil, lui aussi, il se fait par moments hameçonner par des spécialistes. Et pourquoi il se fait hameçonner par des spécialistes? Parce que quand vous regardez un petit peu ce graphique, on voit qu'il va travailler avec des gens qui sont des spécialistes de disciplines ou de théories qui ne sont pas forcément en adéquation ou pas forcément, je dirais, son domaine d'expertise. Donc, il prend un risque à chaque fois parce qu'il va confronter. Alors, typiquement, son théorème, les connaissances qu'il va mobiliser et dont finalement il va faire une synthèse, c'est la théorie de la gravitation. Donc des enseignements de cette théorie de la gravitation. Il va mobiliser la théorie des mathématiques des gaz, il va mobiliser la simulation numérique des galaxies et notamment l'histoire de la théorie de la relaxation violente. Il va mobiliser CAM. Pendant longtemps, c'est quelque chose où il sent qu'il y a quelque chose, mais il ne voit pas trop comment il va le travailler. Et puis finalement, à la fin, tout d'un coup, tout s'emboîte et il voit enfin CAM à quoi ça lui sert. La physique des plasmas et la théorie de l'écoplasma, à un moment donné, quand il discute justement avec un spécialiste, il se rend compte qu'il avait fait quelque chose et qu'il trouvait qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait de façon curieuse. Et là, il a une théorie qui lui permet d'expliquer justement ce qui lui semblait peut-être une aberration, etc. Donc on voit bien que son théorème, s'il le construit, c'est par une synthèse, je dirais, ingénieuse de connaissances qui appartiennent à des domaines différents. Alors vous allez me dire, c'est de la physique ou des mathématiques? Oui, mais la physique et mathématiques, ce n'est pas homogène. Et donc, ce qui fait justement la valeur et ce qui est la raison aussi, justement, de l'origine de ce théorème, mais aussi de la récompense qu'on lui a donnée, c'est sa capacité, justement, à aller chercher des connaissances et en faire une bonne synthèse qui se transforme dans le théorème. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est le recul qu'il a par rapport à cette expérience. Le hasard a dévié ma trajectoire scientifique à un point que je ne pouvais imaginer. Ça, c'est aussi le propre de l'innovation, c'est-à-dire qu'on ne part pas, ce n'est pas un exercice de résolution de problème où le problème de départ est bien connu et la solution d'arrivée, elle est connue. Lorsque vous vous engagez dans un processus de conception, il faut déjà bien cerner le problème de départ parce qu'il n'est pas aussi évident que ça. Et ensuite, vous ne savez jamais vers où vous allez arriver. Et effectivement, du coup, une exploration aléatoire, une exploration par marche au hasard, c'est ce qui lui permet effectivement d'arriver et de créer ce théorème. Alors, les propos de Cédric Villani, c'est finalement la mise en évidence de ce que, avec Michel Faucheux, on a appelé la rationalité créative. Une forme de pensée qui fonctionne de façon très différente, je dirais, de la pensée analytique sur laquelle on est très très bien formé en France. Alors c'est une forme de pensée qui est disqualifiée par l'histoire. Pourquoi elle est disqualifiée par l'histoire? Tout simplement parce que la rationalité créative, c'est la rationalité de la technique, et on est les héritiers, on va dire, de la pensée grecque, et la technique, chez les Grecs, c'est pas la priorité, la science est plus noble, il n'y a pas de pensée technique, et donc on n'a pas développé véritablement d'informations là-dessus. Mais la rationalité créative, lorsqu'on y regarde de plus près, c'est très proche de ce que les Grecs appellent la métis. C'est très proche de ce que Gambiatista Vico va appeler l'ingenium. D'ailleurs, lui, il y a des moments où il explique que la plupart des grandes inventions de son époque, elles ne sont pas liées justement à la rationalité analytique, mais à l'ingenium, donc la rationalité créative. Et c'est quoi cette rationalité créative? Eh bien, c'est une pensée de la relation. Ce qu'on voit très bien dans l'exemple de Cédric Villani, c'est une pensée qui synthétise, qui va rapprocher. Alors, pour ceux qui connaissent les travaux de Koestler, lui parlait du concept de bissociation. Et en fait, la rationalité créative, c'est relativement proche de ça, c'est-à-dire c'est la possibilité de de synthétiser des éléments qui appartiennent à des univers différents, des éléments de connaissance qui appartiennent à des disciplines différentes. Donc on est très proche de ce concept. Donc, juste quelques exemples de Cédric Villani, où il nous dit « Ce sont les liens cachés entre différents domaines mathématiques qui ont fait ma réputation de chercheur. Ces liens sont si précieux, ils permettent d'éclairer l'un et l'autre des domaines impliqués dans un jeu de ping-pong où chaque découverte sur une rive entraîne une sur l'autre. » Donc, on voit bien que lui-même est conscient, justement, de l'importance de cette forme de pensée. Alors, quelle est effectivement, je dirais, la pertinence ou la réalité de cette rationalité créative ? Est-ce que c'est véritablement quelque chose qui existe et qu'on peut retrouver ? Alors là, je suis retournée un petit peu dans l'histoire, et puis je vais vous présenter juste quelques exemples pour vous montrer un petit peu que c'est quelque chose qu'on retrouve de façon récurrente quand on fait l'histoire et la généalogie d'innovation. Là, c'est la presse imprimée de Gutenberg. Donc, quand vous faites l'histoire de la presse à imprimer de Gutenberg, c'est super intéressant, parce qu'au-delà de la controverse sur la paternité à qui elle appartient, on retrouve aussi là des proximités, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que la presse de Gutenberg, et le génie finalement de Gutenberg, c'est d'avoir été capable de rassembler des éléments de connaissances qui existent ou des principes de solutions qui existent. C'est-à-dire qu'avant Gutenberg, on sait déjà imprimer sur des étoffes, on sait faire de la xylographie. À l'époque du Gutenberg, à Nuremberg, on a la mécanique de précision qui se développe. On a du papier. Avant, c'était le velin, on a le papier qui commence à arriver. Donc, on a tout un ensemble de dispositifs qui préexistent et on a notamment, c'est ce que je vous montre sur cette image, on a le pressoir à vin qui existe. Sauf que, justement, que va faire Gutenberg ? Il va prendre la platine et la vis sans fin, emprunter ça justement du domaine du pressoir à vin pour le mettre dans l'imprimerie. Et finalement, ce qui fait la presse à imprimer, c'est la synthèse de tous ces éléments. Donc on voit bien que c'est parce qu'il a été capable d'aller chercher tous ces éléments qu'il est capable à cet instant donné de réaliser la presse à imprimer. Dans un tout autre domaine, l'histoire du cinématographe des Frères Lumière, là, vous voyez aussi que quand vous regardez et quand vous analysez de quoi est fait le cinématographe, ce sont des connaissances liées à la chimie, ce sont des connaissances liées à la mécanique et ce sont des connaissances qui viennent de l'industrie textile. Et notamment, le problème qu'ils ont rencontré, les Frères Lumière, c'était d'arriver à faire défiler la pellicule à un rythme régulier. Et en fait, ils ont tout simplement importé, on va dire, le système et le principe du mécanisme du pied de biche qui permet de fixer à des moments réguliers, des intervalles de temps réguliers, et donc de faire défiler le tissu, et donc pour eux, la pellicule. Alors là aussi, c'est assez intéressant quand on regarde l'histoire des Frères Lumière, parce que les Frères Lumière, c'est Lyon. Et Lyon, on a quoi ? On a un pôle de mécanique historique, on a le pôle de la chimie et on a le pôle textile. Donc on voit bien aussi que ça peut nous interroger sur les politiques économiques qui tendent aujourd'hui à se dire on fait des pôles qui sont très disciplinaires. Est-ce que si on avait été dans un environnement, si les Frères Lumière avaient été dans un environnement avec uniquement de la mécanique ou uniquement avec de la chimie, est-ce qu'effectivement ils auraient fait émerger cette solution ou est-ce qu'elle aurait pas, elle serait pas apparue ailleurs ? Alors, cette idée, on la retrouve dans l'ouvrage de Christensen et Gregersen, qui tous trois, justement, montrent, à partir d'études de cas, qu'il y a... On conçoit jamais ex nihilo. On part pas de rien. Ça, c'est un mythe. Ensuite, le deuxième constat qu'ils font, c'est que les innovateurs ont en commun d'aimer rassembler le plus grand nombre possible d'idées de la même manière que les enfants adorent collectionner les briques de Lego. Alors c'est un peu imagé, mais effectivement, ça montre bien la dynamique justement de synthèse, de connaissance de ces auteurs. Alors, partant de là, je vais faire ce que je vais appeler l'éloge de la transgression aventureuse, parce que si vous admettez, si on admet que le processus central de l'innovation, c'est la conception, que la nature créative de la conception est liée à la mise en place ou au déploiement de la rationalité créative, alors ça veut dire qu'il faut apprendre à transgresser les frontières, à aller voir en dehors de sa discipline, à aller voir en dehors de son métier. Parce qu'on voit bien que tous les exemples d'innovateurs que je vous ai présentés sont des gens qui débordent du champ ou du périmètre, on va dire, de leur métier. Alors là, je vous avais montré, mais je crois que comme je suis un peu longue, je vais passer sur l'exemple de Swatch. Mais Swatch, c'est typiquement ça. C'est-à-dire que quand l'idée de la Swatch, elle arrive, c'est une montre qui n'est pas une montre. aux yeux de la tradition suisse, alors qu'on connaît le succès de cette montre. Et effectivement, Mock, au début, personne ne veut travailler avec lui, c'est ce qu'il dit dans l'ouvrage, parce qu'il apparaît un peu comme le fou, celui qui transgresse, qui est trop transgressif, sauf que derrière, on a bien vu le résultat. On a exactement le même discours chez Bertrand Piccard et son projet Solar Impulse. Lorsqu'il explique un petit peu la genèse, on va dire, de ce projet, il dit bien qu'au début, lorsqu'il a parlé de faire un avion de la taille d'un A340 qui allait s'auto-alimenter en énergie, tous les spécialistes du domaine de l'aviation lui ont dit que c'est impossible. Donc si vous restez avec l'avis du spécialiste du domaine, ben, c'est impossible, vous enterrez votre projet. Ou alors, effectivement, on vous dit qu'il y a quelque chose à faire et vous allez transgresser, donc vous allez aller vers de l'imprévu et vous allez réussir à faire Solar Impulse. Alors, ça veut dire quoi l'éloge de la transgression aventureuse? Ben, je vous invite du coup à aller à la traversée, à emprunter les chemins de traverse, à errer un petit peu à la façon d'Ulysse, et à faire face et à apprendre à vivre avec l'imprévu. Et donc, du coup, effectivement, la question que ça pose, c'est est-ce qu'on est préparé, justement, à aller sur les chemins de traverse? Est-ce qu'on est, préparé à faire face à l'imprévu avec notre système de formation? Alors là, je vais revenir un petit peu sur les objectifs affichés du système de formation et le projet de formation à l'innovation. Donc, ça fait plusieurs années que la question de l'innovation est venue une priorité, que dans l'enseignement supérieur, il faut faire des formations à l'innovation. Une école d'ingénieurs qui n'aurait pas de formation à l'innovation ne serait pas une école d'ingénieurs, etc. Donc, on voit qu'effectivement, c'est quelque chose qui devient une priorité parce que les ingénieurs étant des acteurs clés de la transformation du monde, ben, il faut leur donner justement des moyens d'innover. Quand on regarde les attentes aussi au niveau européen, on voit bien que développer une culture de l'innovation et de la créativité, c'est quelque chose qui est marqué, c'est une véritable attente aussi. Mais il y a un souci. Et là, je vais revenir justement sur ce que je vous ai dit à propos de Schumpeter. C'est que quand on regarde comment sont pensées les formations à l'innovation, on s'aperçoit qu'on est héritier de Schumpeter, mais pas dans le bon sens. Pourquoi ? Parce que Schumpeter, je vous ai dit, son vecteur, son objet, c'est l'innovation, le moyen, c'est le crédit, et l'acteur, c'est l'entrepreneur. Il appelle ça entrepreneur. Et nous, aujourd'hui, on confond entrepreneur et innovateur. Sauf que entrepreneur, au sens courant, c'est plutôt assimilé au gestionnaire de l'entreprise. Et donc, du coup, les formations à l'innovation, et c'est très visible dans le rapport Bella-Tambourin, c'est-à-dire que vraiment, il met beaucoup d'attention en disant « il faut former à l'innovation ». Il nous dit « la démarche d'innovation a une dimension entrepreneuriale ». Et quand il décrit, quand il spécifie la dimension entrepreneuriale, il nous parle, il évoque la flexibilité, la souplesse, etc. Donc, on retrouve des idées qui sont propres, on va dire, au déploiement d'une rationalité créative. Et puis, lorsqu'on arrive sur les préconisations, on nous dit quoi ? Il faut développer des enseignements de savoir de base, finance, organisation, stratégie, modèle d'affaires, innovation, je ne sais pas, je n'ai pas vu, créativité, je n'ai pas vu. Et là, en fait, vous voyez le hiatus, c'est-à-dire qu'on confond le concept d'entrepreneur et d'innovateur, et finalement, les formations à l'innovation deviennent des formations pour créer des entreprises innovantes, sous-entendu que le reste, ça va sans doute de soi. Je ne suis pas sûre que ce soit aussi juste que ça. Alors, je retourne sur l'ouvrage de Christensen. Lui, il a très bien montré, à partir de ses études de cas, justement, aussi, qu'il a menées, que le gène, ce qu'il appelle le gène de l'innovateur, pas au sens, on est avec et il y a des gens qui n'en auraient pas, mais le gène de l'innovateur ou les compétences de l'innovateur et les compétences du cadre dirigeant ou de l'entrepreneur, c'est pas la même chose. L'innovateur, ce qui est privilégié, ce qui est primordial, c'est cette pensée associative. Si on veut effectivement faire de la synthèse une combinaison ingénieuse, il faut avoir cette pensée associative. Et puis, ce sont des gens qui observent beaucoup, qui se posent beaucoup de questions, les fameux why, qui savent réseauter, qui réseautent énormément, et puis qui expérimentent beaucoup. Si vous regardez le cadre dirigeant, ben lui, il a besoin de quoi ? Lui, il va devoir mener le navire. Ben lui, il ne faut pas qu'il parte dans tous les sens, parce que si vous menez le navire et vous partez dans tous les sens, pas sûr que vous arriviez à bon port. Donc lui, ça veut dire que ses compétences clés, c'est quoi ? C'est l'analyse, c'est la planification, c'est la mise en œuvre du détail, c'est la rigueur. Rigueur, créativité, non, ça ne fait pas bon ménage. Donc effectivement, vous voyez en fait le risque, c'est-à-dire que quand dans les projets de formation à l'innovation, on confond entrepreneur et innovateur, eh ben, on risque de faire quelque chose qui va être du moyen, un petit vernis, mais aura-t-on une capacité effective à innover? J'avoue que j'en doute. Alors, je vais rejoindre le constat qui a été dressé par Ken Robinson. Je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à aller voir son TEDx. Il est vraiment bien fait et du coup, il nous explique que finalement, on a un système de formation qui tue la créativité, qui, au lieu de promouvoir la créativité, tout notre système éducatif, malheureusement, fait l'inverse. Ce constat, il n'est absolument pas nouveau. Adolphe Verrières, en 1921, tapait, entre guillemets, sur l'instruction classique en disant, finalement, qu'est-ce qu'on apprend à nos élèves ? On les apprend à rester dans la norme. On veut des élèves disciplinés. Et l'école nouvelle, justement, elle ne veut pas de l'élève discipliné. Elle voulait justement un élève qui se révèle, qui s'épanouisse et éventuellement qui puisse être créatif. Auguste Lumière, et pourtant, lui aussi avec son frère, ils ont déposé nombre de brevets d'invention. Ils sont à l'origine d'un nombre impressionnant aussi d'innovations. Ce ne sont pas que des inventeurs, ce sont aussi des innovateurs. Et lui aussi était très, très critique sur la formation scolaire en France, en disant que finalement, l'école a pour première conséquence capitale d'annihiler les qualités natives du raisonnement d'initiative et d'observation qui spontanément se manifestent chez l'enfant, alors que son cerveau n'a encore subi l'emprise des enseignements dogmatiques, vous voyez, j'aurais dû mettre dogmatique en gras, destructeurs de l'esprit de curiosité. C'est-à-dire qu'il voit ce hiatus entre leur démarche, comment ils fonctionnent, et finalement, ce qu'on leur apprend un petit peu à l'école. Alors, je vais vous donner juste un exemple pour vous montrer comment on peut tuer concrètement la créativité. Quand dans des enseignements, et donc là c'est un exemple qui malheureusement vient de notre école, quand dans un enseignement de sciences humaines et sociales, votre projet c'est de faire des élèves citoyens, des élèves responsables, et qu'en fait les modalités par lesquelles vous les autorisez à penser sont très normées, eh bien, effectivement, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, on va leur faire faire un essai où on veut voir leur réflexion, mais tout est prédéfini. Et donc, du coup, en fait, on a la forme qui va venir, s'imposer sur un petit peu le fond et c'est un petit peu dommage parce que, de fait, on voit bien que on va pas atteindre l'objectif de permettre à nos élèves et aux apprenants de déployer une forme de rationalité créative si les seules choses qu'on leur enseigne, c'est à rentrer dans des cases, à respecter des normes qui sont prédéfinies par des enseignants. Donc je passe là-dessus. Donc ça m'amène finalement à faire le retour à la parabole du dresseur de puces. Alors je vais juste vous dire un petit peu cette parabole du dresseur de puces de Christian Guellerin parce que je trouve qu'elle est assez intéressante. C'est-à-dire qu'on a un système de formation qui finalement, d'une certaine façon, se comporte comme le dresseur de puces. Alors, c'est quoi cette fameuse histoire du dresseur de puces ? C'est un dresseur qui a une puce qui est dans un petit verre, et cette puce, elle fait des sauts. Et cette petite puce, imaginez-la, dès qu'elle est en spectacle, elle fait des sauts. Puis elle voit que les gens applaudissent, ils sont contents. Alors, elle fait un saut de plus en plus loin, puis elle va faire un triple axel, et puis un triple saut périlleux. Puis plus les gens applaudissent, plus elle s'autorise, parce qu'elle voit que finalement elle arrive à faire des choses, et puis elle voit que ça plaît aux gens. Puis le dresseur de puce, lui, il n'est pas bien content à un moment donné, parce que la puce, elle a tous les applaudissements, et puis lui, il passe un peu à l'arrière-plan. Alors à un moment donné, il va discuter, puis il met la main sur le verre. Sauf que la puce, comme si elle est en salle de spectacle, elle est habituée à s'autoriser à sauter. Donc elle saute, elle se tape la tête une première fois. Elle saute une deuxième fois, elle se tape la tête une deuxième fois. Elle saute une troisième fois, elle se tape la tête une troisième fois. Puis qu'elle n'est pas bête, la puce. Donc au bout d'un moment, elle ne saute plus, parce qu'elle a vu que ça lui faisait mal, que du coup, ce n'était pas autorisé. Et puis le dresseur de puce, ensuite, il veut refaire sauter sa puce. La puce, elle ne saute plus. Le problème, c'est que le système éducatif se comporte un petit peu, par moments, à certains égards, comme ce dresseur de puces, en finalement masquant, annihilant les capacités de nos élèves, je dirais d'une certaine façon, à sauter plus haut. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc, ça me conduit, je finirai là-dessus, à militer pour le développement d'une pédagogie de l'aventure, de ce qu'on appelait une pédagogie de l'aventure. L'idée, c'est de faire de la rationalité créative un objet de connaissance. Alors, comment on peut faire de la rationalité créative un objet de connaissance ? Moi, j'emmène mes élèves au musée. Quand vous faites un musée des techniques, on apprend plein de choses sur l'innovation, sur le contexte, sur les implications, sur les différentes formes, sur la synthèse justement des connaissances. Je les emmène aussi voir des expositions à l'Institut d'art contemporain. Donc là, c'est le choc des cultures, parce qu'elles ne sont pas habituées à aller visiter l'Institut d'art contemporain, puis se posent beaucoup de questions. Ça, c'est de la créativité? Non, c'est une blague. Alors, derrière, ça veut dire que ça nous donne la possibilité de discuter, mais qu'est-ce qui fait qu'on a un processus créatif? Quels sont justement les points en commun, les points de divergence? Donc là, ça permet aussi qu'ils rencontrent d'autres mondes, parce que comment voulez-vous qu'on puisse effectivement les inviter ensuite à transgresser les frontières si pendant la scolarité, on reste dans le confort douillet de sa discipline? Donc là, ça les heurte. Parfois, ils n'aiment pas. Mais ce n'est pas grave parce que du coup, ça leur permet de voir d'autres choses. Je les emmène aussi rencontrer des designers. Parce que le designer, il a une démarche qui est assez, on va dire, oser du point de vue de l'ingénieur à qui on a appris qu'il fallait être très, très, très rigoureux pour développer ses produits, respecter son cahier des charges, etc. Et quand ils discutent avec un designer, ils se rendent compte que la façon de penser, elle est à la fois commune, mais ils s'autorisent beaucoup plus de liberté. Et donc, typiquement, là, je fais intervenir Benedetto Bufalino, qui, lui, expose justement un petit peu son cheminement, comment justement il prend un cahier des charges, comment il définit son problème, puis comment il navigue ensuite. Et puis, derrière, je vous ai dit, la rationalité créative, l'éloge de la transgression aventureuse, c'est la rencontre de l'autre, mais c'est aussi de l'audace, c'est de l'imprévu. Alors, il faut que dans nos formations, on amène cette audace, on amène cet imprévu. Alors là, je vous ai mis un exemple qui cabosse bien nos élèves et qui marche très, très bien. Donc, j'ai un groupe de 5e année où j'ai des élèves qui sont essentiellement des garçons, dans une option qui s'appelle « Penser autrement », où je leur donne différents projets de créativité. Et un des projets de créativité que je leur donne, c'est je fais intervenir une créatrice de mode qui leur explique comment elle travaille, comment elle crée des modes. Alors, c'est une créatrice de mode très atypique, parce qu'en plus, elle participe et elle réalise des robes pour les concours Miss France. Donc, les élèves sont un petit peu « Oula, où est-ce qu'on va ?» Et puis derrière, on leur dit « Vous allez créer une robe qui pourrait être le costume régional porté par la prochaine Miss France ». Ben là, c'est vraiment les inviter à traverser cette discipline, parce que ça veut dire qu'ils vont voir comment ça se passe dans le domaine de la mode, qu'est-ce qui se fait, etc. C'est de l'audace, c'est qu'ils s'autorisent, eux, élèves ingénieurs, électroniciens ou mécaniciens, à aller dans un domaine où ils n'y connaissent rien, mais où ils vont devoir expérimenter justement un processus de créativité. Et ils nous font des résultats qui sont quand même impressionnants, parce que je pense que quand ils rentrent dans cette option, ils ne se disent pas qu'un jour, ils vont faire une robe comme ça, une robe qui pourrait très bien être réalisée. Donc, voilà, un petit peu ce que je voulais vous dire. Il me semble que penser l'innovation à partir du processus de conception, c'est s'ouvrir et c'est se donner la possibilité de penser la nature créative de la conception. Si on pense la nature créative, ça conduit à réhabiliter une forme de pensée qui a été disqualifiée dans l'histoire. Si on s'autorise à penser la rationalité créative, ça veut dire qu'on va réhabiliter la rationalité créative dans les processus de formation et donc dans nos dispositifs de formation. Et donc, si on réhabilite la rationalité créative, ça va plaider pour un autre rapport aux élèves, à la formation. Parce que ça veut dire que moi, ce que j'attends de mes élèves dans ces options, c'est qu'ils soient indisciplinés. Donc c'est l'indiscipline des enseignements, parce qu'on a une approche très pluridisciplinaire, très interdisciplinaire, c'est pas un cours de telle discipline, c'est l'indiscipline des élèves, je veux qu'ils aillent voir en dehors, je veux qu'ils expérimentent, et c'est l'indiscipline des enseignants, parce que ça c'est pas acquis aussi, je veux dire, on a été formé pour enseigner de telle façon, c'est pas spontané chez chacun de se dire, je risque d'avoir des questions où je vais peut-être pas savoir répondre parce que des fois, les étudiants nous invitent dans des zones de questionnement sur lesquelles on n'avait pas spontanément réfléchi, sur lesquelles on n'a pas forcément des réponses. Donc ça introduit aussi un autre rapport de l'enseignant à l'enseigné. Ils ne sont pas là pour être des éponges à qui on va venir apporter un discours. Il faut les considérer, et notamment quand on est dans le supérieur, un petit peu d'égal à égal. Alors, je vais finir juste par un « mais ». Mais il y a une énorme difficulté à faire bouger, je dirais, le mammouth, si je peux qualifier le système éducatif comme ça, parce qu'effectivement, les enseignants sont formatés. sont formatées dans la façon d'enseigner, dans la façon dont on définit ce qui est attendu. Et si on veut mettre en œuvre justement une pédagogie de l'aventure, ben, ça veut dire qu'il va falloir aussi arriver à faire bouger les choses de ce côté-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.